awards 4 months away. You got to get your tickets, Jim, because they're going fast and it can't last. All right now, the time is 7:54 and there's a breeze of 50 degrees around your M11 hips. And the weatherman says we have a taste of fog. I say we got a bowl of soul, and if you think your heart can take it, woo, come fly higher with the heavy.
Canal Sud, 92.2, un frisson dans la nuit.
Il habite au troisième comme moi. Je ne l'avais pas remarqué au début. Vivons là une semaine que nous nous voyons tous les soirs. C'est le rendez-vous de 20h, les fenêtres s'ouvrent, les applaudissements fusent. Faut bien montrer qu'on est solidaire. Sur Internet, certains sites parlent de millions de victimes. On raconte n'importe quoi sur Internet. Le brouillard domine, ça fait du bien d'en sortir. Même sur un balcon. Je n'ai jamais vu personne sur son balcon, même avant. C'est un long balcon, filant, comme disent les spécialistes, devant deux grandes baies vitrées et une troisième fenêtre, d'où il sort chaque soir. De ma petite terrasse, j'ai un bon poste d'observation, un peu décalé, latéral. J'installe mon ordinateur, je soigne mes plantes, je prends un café. Et depuis peu, donc, j'observe ce qui se passe. Lui aussi doit pouvoir voir une partie de mon intérieur depuis ce promontoire. Au quatrième, au-dessus de lui, c'est une famille. Et au deuxième, une vieille dame. Au cinquième, je n'ai vu personne. Au sixième aussi, il y a des enfants, un couple. Au premier étage, les volets sont clos. Ils ont dû partir à la campagne. Je n'ai pas de campagne. J'ai une petite ville dans le sud et une famille que j'aurais pu retrouver dès le premier lundi. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai hésité. J'ai peut-être eu tort. Je préfère rester seul que rejoindre ma famille. Je ne comprends pas bien ce ramdam autour de la solitude. On dit que les violences de couple ont augmenté. C'est inévitable. Comment peut-on supporter autrui, nuit et jour? J'ai l'impression qu'il serait de mon avis si je vivais seul. Ce n'est pas la même chose. Les autorités disent qu'on n'a pas encore atteint le pic de l'épidémie. Que penser, que croire, je n'ai pas peur. Si je disais aux gens qu'on a pour 6 mois, on serait plus. Il y a déjà des dépressions. Au début, j'ironisais sur le virus qui porte le nom d'une bière. Je me demande ce qu'ils pensent. La plupart des gens se retrouvent le soir, dans un bel élan de solidarité. On applaudit bien fort le dévouement du personnel hospitalier. Bravo les gars. La rue s'anime 60 secondes. Il est toujours là, parmi les premiers, applaudissant fort avec quelque chose de volontaire qui me plaît. Après avoir fait un tour de guet avec la tête, nous nous regardons tous une fois, deux fois, trois fois, en plissant les yeux, en souriant largement. Puis, il rentre dans sa tanière. C'est une résidence de 6 étages. La façade en crépi, comme on en faisait dans les années 70, 3 étages.
Les réflexions d'un confiné, déconfit, ne valent que pour ce qu'elles sont, un ensemble de conclusions, pas plus définitives qu'il n'y paraît, tirées d'une philosophie de la vie, de quelques lectures, quelques usages culturels radicaux, et une certaine tendresse pour les peuples plus ou moins premiers, même si c'est un mode de vie dont je suis incapable. Si je le pouvais, ne tenant ainsi aucune compte d'une certaine correction politique, je dirais que ce sont quelques remarques tirées du bon sens et de tout ce que j'ai pu lire quand j'en avais encore l'envie. Écouter quand mes oreilles étaient encore disponibles. Puis penser dans ce hors-temps et espace. Mais bon, le bon sens est réactionnaire, voire facho, en tout cas fâcheux, et moi je suis plutôt chronop. Ou alors si les fachos espagnols n'avaient pas pris la formule avec l'affreux cato Rosemilia Astrey, je dirais viva la muerte. Pas celle des autres, bien sûr, pas au sens où je serais indifférent à la mort des autres, mais simplement parce que je pense que ma mort est un épiphénomène. De la même façon que Michel Piccoli, dans La Grande Bouffe, affalé sur un canapé, regarde une cuisse de poulet et dit:
en dehors de la bouche, tout est épiphénomène. Le sable, la plage, le ski, l'amour, le travail, ton lit, épiphénomène. Comme dit l'Ecclésiaste, vanitas, vanitatis.
Oh, mon pauvre petit poussin.
Si tu veux, je peux te dire.
Tu serais fait.
Alors je dirais: viva la muerte. C'est quand même plus classe que de dire que ma mort ne vaut que chi. Donc je chuchoterai: viva la muerte. Viva la muerte, disais-je, la mienne, bien sûr. Appropriation ouverte, viva la muerte. Allez, grete. Fais chauffer la muerte. Juste avant de remonter la poussée de nostalgie, les parogues et collègues, ce n'est pas du basque, mais du danois, en grande partie ce sont des onomatopées danoises qui en font une comptine enfantine de Greta Hargreaves. Et collègues, viva la muerte!
C'est notre souris.
Je n'ai jamais vu personne sur son balcon, même avant. C'est un long balcon, filant, comme disent les spécialistes, devant deux grandes baies vitrées et une troisième fenêtre, d'où il sort chaque soir. De ma petite terrasse, j'ai un bon poste d'observation, un peu décalé, latéral. J'installe mon ordinateur, je soigne mes plantes, je prends un café. Et depuis peu, donc, j'observe ce qui se passe. Lui aussi doit pouvoir voir une partie de mon intérieur depuis ce promontoire. Au quatrième, au-dessus de lui, c'est une famille. Et au deuxième, une vieille dame. Au cinquième, je n'ai vu personne. Au sixième aussi, il y a des enfants, un couple. Au premier étage, les volets sont clos. Ils ont dû partir à la campagne. Je n'ai pas de campagne. J'ai une petite ville dans le sud et une famille que j'aurais pu retrouver dès le premier lundi. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai hésité. J'ai peut-être eu tort, je ne sais pas. Je préfère rester seul que rejoindre ma famille. Je ne comprends pas bien ce ramdam autour de la solitude. On dit que les violences de couple ont augmenté. C'est inévitable. Comment peut-on supporter autrui nuit et jour? J'ai l'impression qu'il serait de mon avis si je lui demandais. Seul et solitaire, ce n'est pas la même chose.
En fait, juste un témoignage ordinaire sur une fin d'époque, par une personne ordinaire mais unique au sens d'Ilippe, je suis unique comme tout le monde. La peur a été instrumentalisée depuis un certain nombre d'années et l'instrumentalisation a réussi. La peur est généralisée avec son corollaire, la connerie, la police comme seule réponse. L'extrême-centre s'installe, l'extrême-centre et son, il n'y a pas d'autre alternative, l'extrême-centre et ses héros comme Rosan Vallon et d'autres qui font la chasse au déraisonnable irréalisme et je ne sais quoi d'autre d'innommable. L'extrême-centre radical de Macron, le populisme le plus abouti dont la peur généralisée est l'outil le plus sûr. Peur du chômage, du virus, de la police, des petites filles salafistes qui ne vont pas à l'école en petite section, peur de se tromper, peur de s'abstenir, peur des autres, peur de soi, peur des caméras, une quinzaine de jours de confinement et les vieilles pratiques de délation ont retrouvé leur actualité.
Dans le quartier, je viens d'arriver. 3 mois que les cartons sont à défaire, à s'empiler bêtement, l'appartement sent encore la peinture. Je commençais à me sentir chez moi que le virus est apparu. Dans la rue, les gens des différents immeubles interagissent. Le mien avec le sien, le nôtre avec les autres, mais lui, comme moi, n'a pas l'air de connaître personne. Les gens du quatrième saluent mes voisins du dessus. Certains même s'interpellent par le prénom. Salut Yves, bonjour Christine. C'est le côté village de Paris dont on m'avait parlé. Je commence à identifier les visages, ce sont toujours les mêmes, aux fenêtres, aux mansardes, aux balcons. Lui, c'est différent. Je n'arrive pas à retenir un détail précis de sa personne. Ce soir, j'essaierai.
Thank you.
croisée dehors. La rue n'est pas le balcon, je ne suis même pas sûr que je le reconnaîtrai. Qu'aurait-on d'ailleurs à se dire? Vous êtes le voisin d'en face? Comment vivez-vous le confinement? Non, nos échanges restent et resteront sans doute limités à cette brève minute hors sol. Quelle drôle de période. On s'en souviendra. Le voilà. Il tire le rideau, repousse le voilage, ouvre la fenêtre et pénètre sur son balcon comme un acteur entre en scène. Mais sans charisme particulier. Il applaudit avec un mélange de vigueur et d'automatisme. C'est plus sympathique que les applaudissements mous de certains. Hier soir, il m'a regardé pour la première fois comme une personne réelle. Jusqu'à présent, son regard était panoramique, balayant, impersonnel. C'est manifestement le seul homme de cet immeuble. Je ne sais pas si je suis symétriquement la seule femme seule au mien, mais j'ai l'impression que c'est un vrai solitaire, épidémie ou pas. Il a un côté ours propre et l'air gentil. Puisqu'il est toujours là, au rendez-vous du soir. Ça ne veut rien dire comme gentil ne veut rien dire non plus. Il satisfait sa conscience, prend la température de la rue ou recherche un peu de compagnie. Vraiment très peu. Au bout d'une minute, il tourne les talons, referme les fenêtres et tire les rideaux. Dommage. Il m'a fait un petit signe de la main. Bêtement, je ne lui ai pas répondu. Mon désir de faire connaissance, de briser cette solitude imposée, n'était donc que du flanc. Je n'ai pas voulu établir de complicité avec lui ni avec personne. Je m'y prends bien mal. Le beau temps nous nargue. J'ai fait meilleur que dans le midi. Je pourrais étendre mon linge sur la terrasse, mais c'est pas autorisé ici. Certains le font, de toute façon. J'ai pas envie qu'on voit ce que je porte, surtout les sous-vêtements. J'ai mis des canisses pour me protéger, mais c'était avant le confinement. Mon appartement est petit, il me convient pourtant. Lui semble jouir, d'après la longueur du balcon, d'un très grand espace. Il occupe une surface équivalente à celle dont dispose une famille. Il est une famille à lui tout seul. Je ne l'ai jamais vu se tenir sur son balcon. L'après-midi, par exemple, quitté ensoleillé aux heures glorieuses, entre 2 et 6, il n'y est jamais. Il semble vivre son confinement avec une certaine rigueur. Ça ne change peut-être pas grand-chose pour lui. Il ne travaille pas de ses mains. Son visage m'échappe encore. Thank you. balcons du reste sont toujours déserts. Leur présence donne un relief trompeur à la rue. Ce sont comme des petites îles qui accentuent la solitude de leurs habitants. Mon cher inconnu ne déroge pas à cette règle. Il ajoute sa touche personnelle. Il ne se déplace pas sur son balcon. Il reste sur la partie située devant la fenêtre. Comme si les deux baies vitrées de ce qui doit être son living ne faisaient pas partie de son appartement. De cet espace supplémentaire et bienvenu, surtout en ce moment, il ne profite pas. Beaucoup donneraient cher pour avoir une surface supplémentaire. Peut-être est-il sujet au vertige. De même, il surgit toujours par la fenêtre qui est en face de la mienne, alors qu'il pourrait utiliser les deux baies vitrées pour gagner son balcon. Mais non, par discrétion. Par pudeur, peut-être. Hier, après le 20h, il m'a dit « à demain ». J'ai trouvé ça charmant. Je suis vite rentré chez moi. Masqué derrière mon rideau, je l'ai regardé, qui restait quelques instants à regarder lui-même la rue, accoudé sur la balustrade en fer, immobile. Un homme seul a une densité particulière. Il semblait absorber le corps entre deux mondes.
J'aime bien le titre d'un dessin animé de Arte qui s'appelle
« Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête ». Mais bon, vous mourrez quand même.
On pourrait y rajouter « La vie est un jeu qui se finit toujours mal » ou « Un jeu qu'on finit par perdre ». Cela résume ce que pourrait être la vie. Et c'est peut-être ça, sauf que le storytelling, alors je prends ce mot à dessein parce que je le déteste. Il y en a d'autres comme cluster, impacté, cluster. Pourquoi pas dire foyer tout simplement. Mais non, cluster. Alors pour moi, cluster, c'est un groupe de la crowd rock. Et juste pour le fun, on écoute un peu de cluster. Je vais donc parler de la mort, de la mienne, non par égocentrisme démesuré, en regardant mes performances artistiques où je suis toujours au milieu comme icône du moment, mais parce que ce que j'ai bien précisé, c'était que j'étais unique, mais aussi comme tout le monde. Je suppose être un représentant crédible de tout le monde, et que je peux être sujet d'études, et surtout de mes études. Quand je prends une photo, c'est un paysage, des objets, ou moi. Je ne tiens pas à capturer l'âme de qui que ce soit dans mon appareil. Alors quand il faut un humain, eh ben, c'est moi. Ce n'est pas d'autofiction, parce que ce que j'évoque, ce n'est pas de la fiction, mais de la réalité. C'est réel, mais ce n'est pas obligatoire que je sois acteur de cette réalité dans la réalité. Mais au bout du compte, dans ce monde de la surveillance continue, on finit par vivre toutes les situations possibles. Nous n'avons pas de futur, et je prolongerai la phrase de Gibson en remplaçant « pas » par « plus ». Nous n'avons pas de futur, nous n'avons plus de futur, car notre présent est volatile.
Le savoir présent tous les soirs, ça crée des liens. Si ténu soit-il, s'il occupait son balcon, j'aurais une autre image de cet homme, de l'ombre. Je dois me contenter de la fenêtre, qu'il laisse parfois ouverte. Je lève les yeux. Et voilà, les gris sont aspirés par un coup de vent qui les précipite au dehors comme une tentative de suicide. Un monde s'entrouve, un bureau, une table sur laquelle est posée une lampe verte, un fauteuil rouge. L'endroit ordinaire d'un célibataire ordinaire ou d'un séparé temporaire. Au-dessus de chez lui, les voisins lavent leurs volets. Je devrais les imiter.
From the point of view of the self, death is the ultimate irrational state. But the self must nevertheless experience dying. And since it has dissociated itself from the sphere of irrationality, it has no way of getting in touch with death or of establishing control over it. Death is the ultimate. Death is for the mind which conceived of the concept of totality, the real and frightening manifestation of that concept. Europe has been striving for the expunging of death from the start. Death itself became the enemy, a specter in opposition to the real nature civilization. From time to time, and for brief periods, this spectre has been a reflection of this civilization's damaged nervous system. But the systematic sublimation of death did not serve to integrate it into general experience. It distanced it, covered it up. Most recent European mass death experience, World War II, provided such an unimaginably intense vision of death that since then, death has really become subject, one open to neither understanding.
Et qu'on laisse échapper une remarque machiste, raciste ou je ne sais quoi, on perdait au pire quelques copines et copains, mais surtout et la plupart du temps, on faisait que cette pensée parasite mais ordinaire et constitutive de notre histoire, histoire intérieure qui ne regardait personne, à part pour certains le psychanalyste par exemple, faire que ces conneries qui nous constituent comme êtres ne soient pas dites.
Comme
toutes mes créations, du moins ces 5 ou 6 dernières années.
Bite.
Le point de départ de l'installation, c'est mon environnement immédiat et l'utilisation d'objets du quotidien pour explorer le sens du comportement humain face à l'art. En cela, je parle d'instants suspendus qui mettent en lumière des objets du quotidien qui, par ailleurs, n'auraient pas été remarqués dans leur contexte habituel. Je me suis intéressé, par exemple, à ce qui se passe quand un tableau représentant un paysage est accroché dans une galerie. Comment ce paysage va-t-il s'inscrire dans l'espace de la galerie, comment cet espace s'inscrit-il dans notre tête, dans notre psyché, pour que ce paysage puisse...
Justement, vous parliez de paysage, et ça me fait penser au regretté Robert Smithson. Smithson qui, dans les années 60 et 70, s'est rendu célèbre avec ses compositions. Alliant photographie et intervention dans le paysage. Il utilisait des matériaux tels que la terre, les pierres, les feuilles et les combinait avec d'autres matériaux tels que...
Mon dénichon.
Donc cette œuvre d'art a été créée. On parlait tout à l'heure de land art. En intégrant par d'autres matériaux tels que le béton, le métal, aux pierres, aux feuilles, à la terre, est-ce qu'on peut considérer que c'est une notion fondamentale dans l'ensemble?
Casse-toi! Tire-toi!
Smithson était un de mes amis, en fait. J'étais très...
Pardon.
Smithson s'intéressait à l'esthétique de la Terre et des produits de la Terre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation de ces éléments, mais pas leur esthétique propre.
Salope, oui. Merde! Tu te m'habilles! Salope!
Désolé.
Je sais plus où j'en étais.
Si vous pouviez rester calme, s'il vous plaît. Et essayez de rester calme.
Connasse! Rentre chez toi! Dégage!
Si l'artiste n'y voit pas d'inconvénient.
Nous avons le privilège de recevoir ce fantastique artiste, ce créateur.
Continuons. Montenichon.
Continuons, et je tiens à dire que tout le monde est le bienvenu ce soir.
Merci.
Nous allons donc. Oui. Avez-vous vu l'exposition à l'étage en dessous? Vous l'avez vu? Vous avez aimé?
Saloperie! J'ai bien aimé.
Ah, ok.
Ça vous a plu?
Tant mieux.
Casse-toi! Rangez-toi! Casse-toi!
Au moins, on ne viendra pas me dire que je ne suis pas dans cette histoire.
Il est aussi très stressé par l'ambiance ici.
Oui.
En plus, un avantage.
Rangez-toi!
Et ce n'est plus cela dont il s'agit aujourd'hui. Même notre inconscient est sur la place publique. Tout peut ressurgir. Pas parce que nous laissons échapper ces expressions maudites, mais par l'analyse de cette accumulation d'informations personnelles que nous donnons à Internet partout, tout le temps, et qui peut être disséquée, étirée, puis compactée, et définir un moi plus vrai que le vrai, mais qui n'a rien de social, et qui, au sens de ce que je suis, n'a aucun sens, jusqu'au jour où, pour des besoins commerciaux, ou pour des fins politiques, un quelconque Google ou ministre de l'Intérieur décide de me faire chanter. Je n'ai aucun intérêt, donc je ne risque rien. Mais jusqu'à quand?
Je me suis levé tôt, à la même heure qu'hier, le drapeau avait disparu, j'ai réussi à travailloter, mais cet après-midi, autour de 4 heures, j'ai vu la nouvelle banderole qu'il avait eu le temps de fixer sans que je puisse le surprendre. Il a écrit en capitale noire, cousue sur le drap. Ils se regardent les uns les autres. Ils ont le visage en feu. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Sa fenêtre était ouverte, le voilage bougeait, mais ne s'envolait pas. Comme l'autre jour, j'ai levé de temps en temps la tête pour tenter de l'apercevoir, mais rien. J'attendrai ce soir. Personne.
Ici, nous. Ce nous est un peu outré, mais bon, je parle d'une majorité de gens qui ne veulent pas mourir, qui ne veulent pas que les vieux meurent, mais qui ne vont plus voir leurs vieux à l'EHPAD et qui meurent à petit feu indigne. Les petits vieux à l'EHPAD, pas ceux qui ne veulent pas aller les voir. Ici, nous ne voulons plus mourir, que ce soit idiot ou intelligent. Par exemple, ceux qui étaient normalement destinés à mourir, ou en tous les cas, ils avaient de plus fortes chances que le civil de mourir, les militaires, eh bien, aujourd'hui, ils ne veulent plus mourir. Je comprends ça, hein, je veux dire, ça ne me dérange pas. C'est un drame quand ils meurent, je veux bien l'admettre. Alors, on leur offre tout ce qu'on peut pour qu'ils ne meurent plus, et que seuls les civils meurent. Et les raisons pour lesquelles pourraient mourir ces militaires qui ne meurent plus sont tout de même assez tordues et peu claires. Force légitime, comme on dit dans les chaumières démocratiques, ou même celles qui ne le sont pas. Force légitime au service de qui et pourquoi. Mais que les civils meurent, pour quelque raison que ce soit, ça, c'est intolérable. 100 000 bébés meurent chaque année à cause de la guerre. Alors ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'OMS qui le dit. Écoutez ça. Ça, c'est le bruit du monde. La fréquence des morts dans le monde. Les morts dus à la pollution, à l'addiction. Ajoutons-y les morts de faim, les victimes de précarité, ceux dont l'espérance de vie est raccourcie, et tout ce qui est une conséquence de la colonisation financière de la planète, ça pourrait donner ça. Le moindre son pour le Covid-19. Alors la pollution, par exemple, toutes les 15 secondes. L'addiction, toutes les 18 secondes. La malnutrition, toutes les 30 secondes. Les morts violentes, guerre et assassinat, 45 secondes. Et les maladies, toutes les 35 secondes. En fait, trois choses m'interrogent sur la mort, fait de constats généraux. Je l'ai déjà dit, je n'élabore pas de concept. Les accidents du travail. D'une part, un souvenir. Quand j'étais petit à Toulouse, régulièrement, la mort, c'est régulier. Pas de problème. Ça peut même jouer aux échecs. Dans mon quartier à Bagatelle, en allant à l'école, dans toute la ville, il n'était pas rare de voir un encadrement de tissu noir à bandes blanches entourer la porte de l'immeuble ou de la maison. Alors on me dira peut-être ce que c'est qu'ato, mais moi ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que ça signalait que la mort,
les morts violentes,
était passée et avait fait son boulot. Aujourd'hui, la mort, c'est dans un hôpital. On ne retourne pas chez soi, la veillée se fait à la demande avec sortie du frigo. Et puis on a inventé les cellules de crise parce qu'on n'était plus capable de faire son deuil tout seul.
La malnutrition, l'obésité.
Mais aussi pour maîtriser les réactions à la mort, pas trop pleurer, pas trop en colère, pas trop de violence. Et puis on a inventé mourir, ce n'est pas bien. Mourir, ce n'est pas propre. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas social. Ce n'est pas normal. Pourtant, même si on ne veut pas mourir,
les accidents du travail,
on meurt quand même. Donc, pour en finir avec la mort, juste poser que c'est un problème de l'Occident, ce rapport à la mort, et de lier la mort à la sécurité, ça aussi, c'est un problème de l'Occident. Si on meurt, c'est que quelqu'un n'a pas fait son boulot. Ça aussi.
Les accidents domestiques.
Alors, 3 gamins meurent de la méningite et on fait un vaccin pour toute la population, contre toute logique. Alors vous vous rappelez sans doute 1968, même pas 1868, l'année du procès des empoisonneuses de Marseille. On ne faisait pas dans la dentelle à cette époque. Eh bien en 1968, etc. Mais pas en mai, en novembre ou décembre, il y a eu une grippe, etc. Le H3N2, qui avait mis plusieurs mois à arriver en Europe. En fait, elle a mis presque un an et demi, alors qu'elle partait de Hong Kong. C'était le H3N2, c'est la grippe de Hong Kong. Aujourd'hui, au Covid-19, il lui suffit de quelques jours, voire quelques heures, pour arriver ici. Alors, par rapport à cette grippe de 1968, voilà un article de Géo là-dessus, assez édifiant du rapport à la mort et à la dramaturgie. Le temps où l'on pouvait dire avec une moue attristée, ah, il n'y a pas eu de chance. Donc, en 68, c'est pas si vieux. Mais enfin. À la fin des années 60, une épidémie de grippe, le H3N2, s'est déclenchée à Hong Kong. Elle a fait le tour de la planète en un an et demi, tuant au total 1 million de personnes, mais n'a déclenché aucune alerte médicale ni mesure gouvernementale. Un virus respiratoire émerge en Chine, franchit les frontières, devient pandémique et fait en un mois plusieurs milliers de morts en France. Donc, première pandémie de l'ère contemporaine, cette épidémie de grippe, H3N2, repérée à la mi-68 dans l'enclave de Hong Kong, fait le tour de la planète en un an et demi, tuant 1 million de personnes, dont 50 000 aux États-Unis et 31 000 en France. Alors, les gens arrivaient en brancard, dans un état catastrophique, ils mouraient d'hémorragie pulmonaire, les lèvres cyanosées, tout gris, il y en avait même de tous les âges, 20, 30, 40 et plus. On entassait les morts dans les arrières-salles des hôpitaux et dans les morgues. Au plus fort de l'épidémie en France, en décembre 1969, explique à l'AFP l'historien spécialiste des questions sanitaires, Patrice Bourdelet, aucun gros titre dans le journal à l'époque, aucune mesure gouvernementale, ni même d'alerte médicale. Le flegme et les bons mots l'emportaient sur une possible mobilisation. Au pic de l'épidémie en France, le 18 décembre, les journaux mentionnent une épidémie de grippe stationnaire ou qui paraît régresser. Comment expliquer une telle placidité ? À l'époque, le milieu médical, les dirigeants, les médias et la population en général ont une foi presque aveugle dans le progrès des armes nouvelles, les vaccins, les antibiotiques qui font miracle, anéantissant par exemple le fléau de la tuberculose. De plus, la sensibilité à la mort n'est pas celle qui est la nôtre. Aujourd'hui, les 31 000 victimes de la grippe de Hong Kong n'ont pas créé de scandale. Elles sont même passées plusieurs décennies inaperçues. C'est l'époque des 30 Glorieuses, le boom économique de l'après-Seconde Guerre mondiale. Sur cette courbe de progrès multidimensionnel, un accident comme une grippe meurtrière n'est pas aussi intolérable qu'aujourd'hui. Internationale avec les guerres toujours présentes au Vietnam, la crise humanitaire du Biafra en Afrique permettent de relativiser les malheurs liés à une épidémie plus meurtrière qu'une autre. Rappelez-vous bien de ça. C'est-à-dire que les trucs extérieurs permettent de relativiser quelque chose qui nous arrive à nous. Aujourd'hui, c'est totalement le contraire. C'est les trucs extérieurs, on s'en branle. Par contre, s'il arrive quelque chose chez nous de petit, eh bien, ça fait qu'on réagit beaucoup. Effectivement, qu'est-ce que sera en regard de cette histoire, 200 000 morts du Covid-19 une fois et 400 000 morts du paludisme chaque année. Il en va tout autrement aujourd'hui. L'épidémie de Covid-19 a chassé tout autre sujet. À voir les radios, les journaux, enfin tout, absolument catastrophique. Et a conduit une gigantesque paralysie. Peut-être parce que la santé est devenue la préoccupation individuelle primordiale. Et je dirais, et la sécurité. Et que nous étions inconsciemment convaincus que nos sociétés disposaient de toutes les armes pour combattre les épidémies. Pour le géographe Michel Lussault, l'importance écrasante prise aujourd'hui par la pandémie de Covid-19 reflète simplement l'ampleur des bouleversements liés à la mondialisation, avec ses mobilités internationales extrêmes pour les marchandises, les hommes et l'information. C'est un article très neutre qui conclut « Le monde change », tout simplement. Ce qui est assez insupportable, ce n'est pas un changement, c'est un retour à la féodalité. Pour être en sécurité, vous devez respecter la liste des devoirs du serf et surtout perdre votre liberté.
Suis-je ? Au village. Qu'est-ce que vous voulez ?
Des renseignements.
Dans quel camp êtes-vous ?
Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements.
Vous n'en aurez pas.
De gré ou de force, vous parlerez.
Qui êtes-vous ?
Je suis le nouveau numéro 2.
Qui est le numéro 1 ?
Vous êtes le numéro 6.
Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre !
Mais sans avoir besoin d'un microscope, on voit ce qui a été bouleversé. Où le groupe compte plus que les individus. Qu'une perspective d'avenir joyeuse, c'est pas aujourd'hui, il va falloir travailler plus... Il va y avoir de plus en plus de pauvres. L'idée d'un possible changement politique. Un monde où on augmenterait plutôt les salaires que baisser les prix. Un monde où être clochard était un choix, plutôt qu'une conséquence. Combien de gens meurent chaque année, peu importe leur âge, jusqu'ici avec le Covid-19 ? L'âge moyen de la mort est autour de 80 ans. Une longue liste morbide, certes, mais éclairante. Pollution de l'air, 8 800 000 personnes par an. Tabagisme, 7 200 000. Alcoolisme, 3 millions. Malnutrition, 3 millions. Obésité, 3 millions. Accidents domestiques, 2 millions. Infection nosocomiale, 2 millions. Travail, 2 millions. Alzheimer, 1 600 000. Sida, 1 500 000. Tuberculose, 1 290 000. Accident de la route, 1 250 000. Suicide, 800 000. Résistance aux antibiotiques, 700 000. Grippe saisonnière, 650 000. Eau non potable, 500 000. Homicide, 475 000. Bon, et le paludisme dont je vais parler tout à l'heure, 405 000. Ces comptages n'ont de valeur que dans une perspective nombriliste. Bien sûr, je conçois que perdre un proche du Covid-19 n'est pas juste. Mais pas plus injuste que mourir à cause d'une bavure policière. Et... est-ce que plus tard, il y aura un Salomon social qui viendra égrener tous les jours la surmortalité liée à la crise économique, sociale, financière, psychologique provoquée par le confinement ? En France, il y a 160 000 morts par jour dans le monde. Le Covid-19 va au pire rajouter 2 jours de mortalité mondiale. Et comme on est une année bissextile, on ne va même pas s'en rendre compte. La mort, c'est triste et normal. Ou horrible et normal, ou ce que vous voulez, mais c'est ordinaire. Les conditions de la mort peuvent ne pas l'être ordinaire. Je suis mort un temps à l'hôpital et je n'ai pas trouvé ça angoissant. La pompe à morphine, le cerveau d'un poireau, plus aucune chose à faire, du rien, du presque rien. Plus compliqué et la plus douloureuse, la résurrection avant la résurrection. De quoi comprendre Lazare, sortant du tombeau, pâle et affaibli, entouré de bandes velpeau. Laissons Lazare errer et terminons par une parabole familiale.
Parfois, il adresse un message d'espoir. Les masques reviendront. Et je me dis qu'il essaie d'encourager le peuple dans la période difficile que nous traversons. Mais le jour suivant, ce sont de tout autres mots qui apparaissent. Mais les beaux jours sont morts. Le lendemain, ce fut le semeur de la peste est en rage. Puis, une chauve-souris n'est pas un sujet de droit. Mais avec la banderole suivante qu'il a dû placer dans la nuit, vous allez mal, il a dépassé les bornes. Au balcon, il s'élève à présent des protestations au milieu des applaudissements. Mais nous voulions applaudir comme à notre habitude, Si nous avions cessé, cela aurait été une défaite. Mais les messages bizarres qu'ils confectionnent semblent hériter des bravos que nous leur prodiguons sans le vouloir. Chaque jour apporte son nouveau message comme un tweet géant qu'il poste sur son balcon. C'est interdit, enfin, je suppose. J'ai regardé sur Internet, les règlements de copropriété restent muets sur un pareil cas. Ils ne s'intéressent qu'aux antennes paraboliques mises indûment par les locataires. Le dernier en date, je vous embrasse fort, tient de la provocation. Ce soir, les gens vont réagir, c'est sûr, on ne peut pas le laisser déraper ainsi. On continue de manifester notre soutien chaque soir sans lui. Il a disparu de notre horizon tout en étant plus présent, comme un trou attire l'œil dans un pull. Anecdotique comme peut l'être un voisin, il est devenu essentiel comme peut l'être une phrase. Je ne comprends pas le but qu'il poursuit. Nous provoquer, nous inviter à la révolte, à l'indignation. J'ai envie d'aller sonner chez lui, de lui demander des explications, de lui dire « ça suffit maintenant, où voulez-vous en venir ?» Il a instillé un malaise en moi. Et probablement chez les autres. Nous restons passifs, mais que faire? Son dernier message est incompréhensible. Shru, Yesh, Zoa. En grosses lettres noires, cousues sur un nouveau drap blanc, dont il semble avoir un stock. Ça ne veut rien dire, évidemment. J'ai cru à un anagramme ou un message codé sorti d'un cerveau confus. J'ai même tapé les lettres sur Google dans l'espoir d'avoir une piste, mais rien n'est sorti. Demain, s'il continue, je lui répondrai. Je ferai moi aussi une banderole. Je cherche une phrase.
Ma mère, dans son EHPAD associatif, au téléphone. Je regarde plus les infos. Tous les soirs, ils nous sortent le petit gros rougeau, là. Comme je lui dis que je ne vois pas qui c'est, elle me précise, mais oui, c'est l'abruti qui, tous les soirs, nous dit le nombre de morts de la journée. Tu peux pas savoir comme ça nous démonte le moral, chez nous, à l'EHPAD. Tu vois, mon fils, avec l'interdiction d'accès aux plages, je ne pourrais pas me suicider, comme James Mason dans Une étoile aînée, avec Judith Garland, un film de Cukor, je crois. Alors je lui réponds immanquablement que ça serait difficile, sur la plage de Nice, avec un déambulateur, d'atteindre la mer.
À cause des galets, bien sûr.